vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Il y a des jours où l'on oublie que l'on a un corps. On le plie dans des vêtements, on l'installe sur une chaise, on le fait avancer dans les couloirs du bureau ou dans les allées d'un supermarché. Il obéit, il suit le mouvement, sans bruit, comme un vieux chien fidèle. Cette image n'est pas très belle d'ailleurs. Et puis il y a des jours où le corps se rappelle à nous. Un frisson, un vertige, une douleur qui vient gratter à la porte. On voudrait lui dire pas maintenant, mais il insiste. Le corps sait, il sait avant nous, il comprend avant qu'on accepte d'écouter. Corps à ciel ouvert, c'est un ouvrage qui parle de vie, c'est un titre qui nous dit d'accepter de ne plus être invincible. C'est marcher sur le fil, entre le gouffre et la lumière. Et dans ce fil fragile, il y a des mots, les mots de Corinne Bonnet qui ont pris la place du silence, qui ont tracé des chemins là où il n'y avait que des murs. Écrire pour ne pas sombrer, écrire pour tenir debout, écrire pour sentir encore la brûlure du vivant. Aujourd'hui, on ouvre ce corps, ce ciel, ces pages ensemble. On écoute, on respire, on entend. Parce qu'il y a dans la poésie une manière unique de dire l'indicible. Et que ce grand format, celui de votre émission quotidienne, est aujourd'hui un voyage de l'intime, pas une simple interview. Avec Corinne Bonnet, on parle d'un corps qui se bat, on parle de poésie et de ce qu'elle peut contre la nuit.
Je vis en Mayenne depuis une trentaine d'années. J'ai beaucoup circulé dans ce département parce que j'aime beaucoup la nature et c'est un endroit très peu connu, mais où il y a des chemins creux, plein de bonnes choses et de petits raisins et de champignons. Et ça, c'est voilà, un endroit que j'ai toujours aimé beaucoup. J'ai aussi beaucoup circulé dedans à cause de mon travail qui me portait vers des partenaires artistiques, culturels, théâtre, musique. Et donc, ça a été une grande passion de pouvoir aider ce territoire à mon niveau pour qu'il s'y passe beaucoup de choses avec des gens chouettes et qui aimaient cet ancrage territorial.
Aujourd'hui, toutes les deux, on va parler de plusieurs choses, notamment de l'ouvrage que tu as dans tes mains, Corps à ciel ouvert, qui a donc été publié en 2023 aux éditions Les Impliqués. C'est un recueil de poésie, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi de la prose. Avant d'écrire Corps à ciel ouvert, quel était ton lien à l'écriture ?
Alors, c'est vrai que j'ai toujours écrit un petit peu. Écrit au fil des heures sur la vie quotidienne ou des pensées. Et la poésie a toujours été aussi, dans mon parcours, quelque chose de présent, même si ma grande surprise a été l'explosion qui a eu lieu pendant et au début de mon cancer. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une ressource et une forme d'inspiration que je pouvais avoir naturellement, mais une ressource à laquelle je ne me consacrais pas. J'ai le souvenir de petits papiers avec des bouts d'inspiration qui m'arrivaient dans une promenade ou sur mon vélo, 3-4 lignes qui se tombaient à un moment quelque part parce qu'il se passait autre chose à faire après, retourner au travail ou la cuisine ou je ne sais quoi. Et ces petits poèmes n'étaient pas finis, alors que je me rends compte aujourd'hui que c'était une profondeur qui est essentielle en fait et à laquelle je remettais à demain.
À quoi ressemblait ta vie, Corinne, avant le diagnostic ?
Beaucoup de gourmandises, de gourmandises artistiques notamment. Donc je faisais de temps en temps, quand même assez régulièrement, des pratiques soit de chant, soit de musique, un peu d'improvisation, mais pas régulièrement. Et c'est des choses qui donnaient de l'éclairage à ma vie, de le partager aussi avec des amis, de le partager avec ma compagne, Raymonde, qui est très présente dans son recueil, puisque malgré la tempête, on dit souvent que des couples devant le cancer, c'est une vraie épreuve. Je crois qu'un homme sur 7 quitte sa femme quand il y a des questions comme ça. Et donc, on pratiquait l'art à notre façon, et on avait déjà monté un petit quelque chose autour de René Guicadou.
Et un jour, il y a le diagnostic, il y a l'annonce de la maladie. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter ?
Évidemment, c'est un choc, parce que même s'il y a des examens en cours, le cancer, c'est quelque chose qui est encore tabou, même si c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre société, et notamment chez les jeunes. Je lisais des choses là-dessus, des diagnostics chez les jeunes. J'ai un peu erré au niveau médical. C'était en fait en 2017. et j'ai été en soins jusqu'en 2021 et atteinte au niveau physique jusqu'en 2023 parce que j'ai eu 3 opérations. Donc quand le cancer atteint le ventre, puisque c'est un cancer des ovaires, il y a des organes conducteurs et c'est vraiment important. Les chirurgiens proposent vraiment, pour éviter la propagation des métastases, d'enlever des organes. Donc j'ai eu d'abord 5 organes d'enlever, bon, notamment autour des ovaires et utérus, et puis les ganglions, des choses comme ça. J'ai eu un parcours quand même assez compliqué et grave, parce que le cancer de l'ovaire est, alors on peut le dire aussi, c'est un cancer silencieux. Madame Perrault, qui était la présidente de la Ligue contre le cancer, qui soutient ce projet, et d'ailleurs les droits d'auteur vont à la Ligue, disait que on en parle peu et que quand il arrive c'est trop tard, quoi. Ce qui a été mon cas d'ailleurs.
Comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Comment ça a été détecté?
Eh bien, ça a été détecté, justement, les symptômes, ça peut être des ballonnements, ça peut être une envie d'uriner assez rapide, le ventre qui grossit, de la fatigue aussi. Et en fait, mon généraliste m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut aller aux urgences, quoi. Même côté gynéco, c'est pas forcément évident de repérer. Donc c'est quand même assez embêtant comme cancer. Et donc j'ai fini par être en échec thérapeutique, la chimio ne marchait pas, ils savent plus ou moins, mais on est un peu obligé de passer par la case chimio au cas où il y aurait des résultats intéressants. Et donc j'ai choisi j'ai demandé un rendez-vous à l'Institut de cancérologie à Angers, et j'étais un peu aux abois puisque j'avais pas de solution thérapeutique et on voulait me proposer une deuxième chimio. Comme j'ai, je crois, en moi un instinct de vie qui s'est révélé assez fort, la secrétaire à l'Institut de cancérologie à Angers m'a dit « Mais madame, nous sommes là pour vous accueillir, c'est légitime de demander une contre-visite. »
Alors c'était un cancer rare, un cancer que l'on dit silencieux, et la finalité à laquelle tu te préparais n'était pas bonne.
Le diagnostic de départ est compliqué, d'autant que moi j'étais en stade 3. Donc il y a 4 stades, donc c'était très avancé. Comme j'ai été prise en charge tardivement, les métastases étaient parties. Enfin, le cancer qui aurait pu rester encoquillé dans les ovaires, il s'est décoquillé. C'est pas tellement le mot, j'ai pas tellement le mot scientifique, mais voilà, il a explosé en fait. Parce que là, j'ai dû attendre 2 mois pour avoir un IRM. C'est pour ça que c'est intéressant de rester en contact avec des gynécologues ou des médecins qui sont directement en contact avec des centres de cancérologie.
À l'annonce du cancer, du diagnostic, qu'est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti et de comment tu as pu gérer ça?
Alors c'est un peu loin maintenant. Ce qui est un peu troublant, c'est que j'ai mis dans le livre un proverbe peul. Tant que l'homme n'est pas mort, il n'a pas fini d'être créé. Donc un proverbe africain que j'avais depuis longtemps. Et ce jour-là, quand je l'ai lu, c'est des phrases comme ça qu'on peut avoir dans sa chambre, dans son bureau, et qui, à des moments graves de l'existence, peuvent devenir des déclics. Et c'est vrai que, étonnamment, évidemment qu'il y avait du grave. Ce qui a été chouette, c'est que voilà, je vis en couple. C'est pas le cas de tout le monde qui est malade, et je crois que ça peut être vraiment un appui, mais ça demande vraiment un travail à l'intérieur du couple d'acceptation. Et surtout d'accepter la souffrance et la douleur. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est à des moments comme ça de choc, des moments charnières, des moments où on m'annonce une récidive, d'accepter de pleurer, d'écrire, de percevoir les gens, de dire aux personnes « je ne peux pas vous voir, c'est trop dur ». D'avoir dans le couple à deux une stratégie par rapport aux amis et aux proches pour dire « qu'est-ce qu'on dit et quand ?». C'est très simple, mais sinon c'est comme vous à la radio, ça sonne tous les jours. Quelles sont les nouvelles? Et on peut se retrouver obligé d'être dans cette espèce de temps qui demande l'acceptation de la douleur et de la maladie et de digérer des mauvaises nouvelles. Il y a parfois des bonnes, mais il y a aussi des mauvaises, par exemple une récidive. Et un temps court des gens qui téléphonent, et il y en a plusieurs comme ça, où il faut répondre et redire l'histoire. Donc, moi j'avais réfléchi à comment faire, et j'avais besoin de cette lenteur pour m'approprier ce qui se passait et le digérer. pour trouver une méthode qui était très simple, c'était on écrit aux amis, on donne l'information à un moment où nous-mêmes on l'a digérée. Très concrètement, on ne disait jamais les dates des scanners. Jamais. Il y aura un scanner dans 2 mois, on se donnait le temps de la nouvelle, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le dit ? Et parfois on donnait la nouvelle par écrit, 15 jours plus tard, avec un écrit qu'on avait réfléchi, et tout le monde avait l'information au même moment. C'est des petites choses, mais franchement, ça a été très important pour moi, parce que ça permettait de mettre un temps tampon entre nous et les amis, et ça permettait aux amis aussi d'avoir leur respiration émotionnelle, par rapport à se dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on le fait ?» et pas d'être dans cette réactivité qui, dans la société aujourd'hui, je trouve, encore plus aujourd'hui quand on voit au niveau politique ce qui se passe, par exemple aux États-Unis, je crois que la maladie doit apprendre des choses à la société. Je crois que la vulnérabilité a des choses essentielles à nous rappeler qui sont profondément humaines.
Dans ton livre, tu parles justement de ce qui aide à guérir des chemins inattendus vers le mieux-être. Quels ont été ces chemins pour toi ?
Les chemins inattendus. C'est exactement ce que je n'avais pas le temps de vivre quand je courais après les trains pendant ma vie d'avant. Une vie professionnelle intense, certes, mais un tempérament un peu intense aussi. Voilà, un affairement obligé et un peu... naturel. Et étonnamment, cette maladie est venue contrebalancer tout ça. J'aurais pu sombrer dans quelque chose de tellement antinomique que ça aurait été effectivement très douloureux. Et j'ai été très surprise de ne pas sombrer. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de désespoir et beaucoup de moments de blanc et de complexité. Mais il y a eu aussi, dans ce grand ralentissement, quand on m'a dit, après le diagnostic, quelques jours après la première opération, « Madame Bonnet, on va être obligé de vous donner, on vous donne un arrêt maladie d'un mois. » Ah, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai des rendez-vous là dans 3 semaines, j'ai des rendez-vous passionnants avec des équipes de psychologues pour mon nouveau métier. Non, c'est pas possible. Et j'ai été en arrêt maladie 5 ans. Donc, l'arrêt au temps permet aussi, m'a permis de découvrir qu'une forme de vie à laquelle j'avais accès, parce que je pratiquais quand même la méditation depuis une quinzaine d'années, mais c'était un temps voilà, dans un petit bout de la journée, et après ça n'empêchait pas forcément de courir ou de se dépêcher pour vouloir être efficace, puisque la société veut quand même qu'on soit très efficace. Et dans ce temps-là, il y a les surprises d'un oiseau dont on croise le regard. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai croisé un regard d'oiseau. Il y a un poème sur un oiseau dont je ne dirai pas plus, mais qui a été aussi une rencontre. Un oiseau qui est venu se fracasser contre une fenêtre dans la maison à un moment de mauvaise nouvelle, mais qui est devenu un oiseau porteur d'espoir. Alors les chemins inattendus, c'est aussi les surprises des proches, que ça soit les amis, que ça soit ma compagne, mes parents aussi. Par rapport à ma compagne, c'est vrai que j'ai été dans l'émerveillement, en fait, de comment une personne qui est dans cet accompagnement d'impossible chemin vers la mort, puisque on m'avait bien dit que ce cancer était très compliqué, que j'étais dans un stade avancé, et donc on avait regardé sur Internet, on ne peut pas s'en empêcher, que l'espérance de vie était de 2 ans. Donc, ça fait un couple où une personne se dit « je vis en couple », mais en fait, dans 2 ans, ça va sans doute être une dégradation compliquée, puisque j'étais en échec thérapeutique. Il se trouve que moi, de mon côté, je suis quand même quelqu'un de follement optimiste. Donc, en fait, jusqu'à la fin du traitement de la chimio, jusqu'à ce que mon ventre grossisse, voilà, il y avait cette complexité dans mon optimisme, en même temps la conscience que les jours étaient comptés. Et voilà, ces cadeaux de l'attention. C'était beaucoup de l'attention, de la présence. Chez ma compagne, ça a beaucoup été une qualité de présence, à la fois dans la bienveillance, prévoir des choses, anticiper des petits cadeaux du quotidien. Il y a des choses qui sont pas tellement qu'on peut pas tellement dire, parce qu'en fait, les choses se présentent au fur et à mesure. Et ce côté-là, ça révèle aussi des tempéraments. Le côté très posé et calme, en tout cas de la personne qui vivait avec moi, m'a fait un bien énorme. Puisque moi, je suis plutôt quelqu'un de nerveux et d'inquiet. Là, à ce moment-là, voilà, il y a des choses qui se révèlent, qui sont un peu des cadeaux, ou des choses qui se révèlent. La maladie m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas. Parce que je n'étais pas dans une situation de crise ou une situation d'urgence. Autour de la fragilité, il y a certainement quelque chose qui est révélateur et qui fait chercher des ressources de part et d'autre. Je pense que ce qui se passe dans certains couples, c'est que c'est difficile d'accepter la fragilité. D'abord parce que dans un couple, on se repose l'un sur l'autre, et là, c'est plus possible. Et parce que des fois, la façade ou l'être social prend le pas sur la vie intérieure. C'est quoi la vie intérieure ? C'est je suis triste, j'ai envie de pleurer, j'ai des doutes, j'ai des gros doutes, j'ai peur. D'arriver à se dire j'ai peur que tu puisses mourir, j'ai peur que le traitement ne marche pas, j'ai peur que cette chimio soit tellement forte que tu ne retrouveras pas tes forces parce que tu as perdu 7 kilos. Tu faisais 48 kilos, tu fais plus que 41 kilos. De pouvoir dire tout ça au fur et à mesure des choses, je pense que pour nous, ça a été salvateur de part et d'autre. De pouvoir dire « j'ai peur, je suis triste », de pouvoir pleurer. Et ayant pleuré, d'avoir ce soulagement, c'est ça en fait, je pense qu'on a parfois peur des émotions. Mais l'accès aux émotions tristes donne aussi l'accès à la joie. C'est vraiment important ça. Parce que, et j'ai un poème là-dessus d'ailleurs, l'accès à la joie, il me semble, vient aussi parce que l'être est en circulation à l'intérieur. Si les émotions se disent, ça veut dire que les larmes peuvent sortir. Si les larmes peuvent sortir, ça veut dire que les peurs peuvent sortir. Si les peurs le peuvent, les mots le peuvent, et donc les émotions aussi de douceur peuvent sortir. Et j'ai été très sensible, je crois, à ça dans mon couple, à la qualité d'écoute de Raymonde, et des moments qui, du coup, m'ont semblé très précieux, parce qu'ils se sont vécus, j'allais dire, grâce à la maladie. C'est pas ça, mais à cause d'eux, ou en tout cas, dans cette traversée.
Je suis malade. Mon cœur, lui, n'est pas malade. Il est ébloui. Mes proches révèlent des fleurs impalpables. Jamais de ma vie, le présent n'a été si prégnant. Je suis malade et mon cœur respire, s'entraîne à s'ouvrir, s'ouvrir et recevoir. Je suis malade et mon cœur respire, s'entraîne à s'ouvrir, s'ouvrir.
T'atteindrai, Hélène, à travers les prairies, à travers les matins de gel et de lumière, sous la peau des vergers, dans la cage de pierre où ton épaule a fait son nid. Tu es de tous les jours l'inquiète, la dormante, sur mes yeux tes deux mains sont des barques errantes. À ce front transparent, on reconnaît l'été, les herbes, les gibiers, les fleuves me répondent. Sans t'avoir jamais vu, je t'appelais déjà, chaque feuille en tombant me rappelait ton pas, la vague qui s'ouvrait jaune des villages. Je t'atteindrai, Hélène, à travers les prairies, à travers les matins de gel et de lumière, sous la peau des vergers, dans la cage de pierre, où ton épaule a fait son nid.
On vient d'écouter un extrait de la lecture spectacle que tu proposes suite à la publication de Corps à ciel ouvert, publié aux éditions Les Impliqués. Alors je le rappelle, c'est un ouvrage, un recueil de poésie, mais qui est aussi composé de prose, de parties plus narratives. Alors cette lecture spectacle, tu l'as construite avec Raymond, ta compagne. Tu nous parlais tout à l'heure de la communication, de la force de votre relation face à l'épreuve. Est-ce que cette communication, vous l'aviez déjà avant l'annonce du cancer ?
Je crois que c'est quelque chose qu'on travaille. Alors sans doute qu'on le travaillait déjà avant, mais on a tous des limites et on est aussi un couple où ça chauffe très vite. Ça monte très vite en tension parce qu'on est très vive, parce qu'on a des personnalités assez fortes. Voilà. Et du coup, la maladie est aussi une épreuve de ça, à travers ça. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a eu envie d'aller vers la lecture spectacle, que ce livre devienne quelque chose, parce qu'on parle pas beaucoup, je trouve, de ça. Il y en a aujourd'hui et des associations comme Jusqu'à la vie accompagner la mort et des associations de d'aidants aidés sont vraiment importantes parce que je pense que notre société a besoin de ces espaces où on parle d'autre chose que la performance, l'économie, la force, la rentabilité, parce que le vulnérable est essentiel et est essentiellement humain. Et la maladie révèle ça. Et en fait, moi, je me suis dit, mais je ne veux pas ne pas dire que je suis malade. J'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas dire qu'ils étaient malades. Ils avaient honte de le dire. Ils ne le disaient pas à des proches. Ils se débrouillaient autrement. Et en fait, moi, au contraire, je le disais beaucoup. Et ce partage générait en face des rencontres. Je me rappelle une prise de sang où je racontais que je venais de mettre le cathéter et l'infirmière m'a dit « Ah bon, vous avez écrit un poème sur le cathéter ? Comment c'est possible ?»« Ben, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce poème. » Hop, et je récitais un poème. Et du coup, il y avait une rencontre qui durait 2 secondes. Parce qu'un poème, ça dure 2 minutes.
Corinne, on a parlé de la place de ton couple dans ce que tu as vécu et tu as justement écrit un poème là-dessus. Est-ce que tu accepterais de nous le lire ?
Alors, je vais vous lire un extrait d'un poème à Raymond qui s'appelle « Tu m'apprends ».
On t'écoute.
Tu m'apprends à pleurer doucement dans le temps malade, avec les rosiers à couper, dans ce même temps qui n'est pour toi pas différencié des grandes marées ou des pas des aigrettes de l'île de Ré. Tu m'apprends à être en bienveillance avec le corps souffrant. Tes mains, tes paroles tissent des fils immobiles, comme un toit tranquille au-dessus de moi.
Un de tes textes importants aussi, Corinne, concerne l'entourage, les amis.
Alors, j'avais nommé ces amis mon cercle d'or. J'avais beaucoup besoin de cercle et de rondeur. Après une vie où il fallait être très carrée et rigoureuse, donc le rond me faisait du bien. Ce poème s'appelle tout simplement « Merci ». Vous êtes entré par l'escalier, la cheminée, la porte, par des endroits de mille sortes. Vos mots, vos ailes sur mes épaules sont une si grande hôte. Vous êtes venu léger, sans frapper, apporter tous vos fruits, j'en bois les confettis. Vous vous enroulez à mes nervures inquiètes, j'avance à pas feutrés, et la porte est moins grande.
Merci Corinne. Alors il y a cet ouvrage qui te raconte, qui raconte la transformation de ton monde en quelque sorte. Et ce récit, ce monde-là, tu le prolonges aujourd'hui avec une lecture spectacle. On en a dit quelques mots, mais comment est-ce que vous l'avez travaillé ensemble avec Raymond ?
J'ai travaillé beaucoup les poèmes à l'oral. C'était une façon de les partager avec les proches, les amis, de les faire évoluer. J'ai lagué beaucoup. C'est comme si la mise en écriture de choses douloureuses et de choses belles, parce qu'encore une fois, il y a de la beauté qui se traverse avec cette conscience de la vie parce qu'elle est possiblement raccourcie. Quand on est malade, on ne sait pas combien de temps ça va durer et est-ce que la vie est raccourcie, alors qu'avant, pour moi, la vie était longue.
Raymonde faisait déjà depuis de nombreuses années du chant et de la guitare de son côté.
Petit à petit est venue l'idée que nous puissions monter quelque chose de vivant. Les mots, ça demande de la concentration pour un public. La musique apporte de la douceur, apporte du soyeux.
Et justement, pour la partie musicale, Raymonde a été puisée beaucoup dans le répertoire celtique.
Raymonde, elle, ce qui l'a vraiment touchée, c'est le fait de la bascule que provoque la maladie et du recours qu'a été pour elle le chant. Et du coup, ce recours, elle l'a intériorisé. Et du coup, de le transmettre aussi au public, c'est quelque chose qui permet aussi de retisser des liens. J'ai bien parlé de la société où on a ce côté carré, rigoureux, il faut être fort. Là, on est aussi dans quelque chose qui est peu honoré dans le monde académique, la musique et la chanson bretonne, qui est transmise au niveau de l'oral, qui est transmise par des femmes, quelque chose de populaire. Et donc, il y a un enracinement et le côté très humain qu'on voulait faire partager à travers la lecture spectacle pour dire « Nous sommes tous dans une barque de la vie ». Et dans la barque, les voiles peuvent aller du bleu à l'orange, au noir. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir le vivre avec des ressources, de la musique, des mots. Cela aide. Et la musique a servi de barque et de bercement. Et dans les veillées bretonnes, tous ces états que pouvaient traverser les populations, de peur, de sommeil, de bercer l'enfant pour pas qu'il ait de cauchemar, de bercer quelqu'un de malade, l'accompagnement d'un deuil. Voilà, il y a quelque chose vraiment d'universel dans la berceuse bretonne pour laquelle Raymonde trouvait que ça peut à la fois permettre de travailler sur la résignation et de trouver une forme d'acquiescement, de passer de la désolation à la consolation. L'envie avec cette lecture spectacle, et là je passe de la berceuse à ce qui à toutes les deux a été notre fil, c'était de chercher un chemin et de dire un chemin est possible. On peut traverser. C'est dur et on avait envie de transmettre le comment on a traversé avec des mots et des musiques.
Et alors, il y a différentes dates que vous proposez pour que l'on puisse venir vous rencontrer et découvrir cette lecture spectacle.
La première date, c'est au Théâtre du Tiroir. Jean-Luc Bansard est quelqu'un vraiment d'une ouverture à la fois artistique et sur les enjeux de société, de migration, d'accueil, particulièrement chouette. Et il fait des jeudis du livre. Et donc, c'est une lecture livre, puisque ça valorise le livre, qui a lieu le jeudi 13 mars à 20h dans le Petit Théâtre Jean Massé à Laval. Puis, nous allons à Fougères, dans le cadre du Printemps des femmes et des filles, une manifestation autour de thèmes féministes, drôles, il y a de l'humour, il y a des musiques. Le samedi 15 mars à 16h30 à la médiathèque de Fougères. Et nous terminons cette petite série à Château-Gontier. La médiathèque du pays de Château-Gontier nous accueille le mardi 18 mars à 20h30 avec l'envie plutôt là autour de la thématique poésie. Et j'ai découvert cette médiathèque extraordinaire. Il y a un lieu magnifique avec des rideaux, une petite scène circulaire où il faut beaucoup de travail autour du conte. Et c'est vraiment un grand honneur d'être à Château-Gontier avec une médiathèque aussi dynamique.
Corinne, tu m'as dit que vous avez toutes les deux présenté cette lecture spectacle auprès d'une association qui travaille auprès des malades, mais aussi auprès des aidants à Vannes.
Oui, c'était à Vannes, on a présenté la lecture spectacle. De plus en plus de structures présentent des activités pour les personnes malades et les personnes qui les accompagnent, que ce soit des proches couples, parce que parfois on est obligé d'être accompagné par quelqu'un, rester seul chez soi c'est très compliqué, et les aidants ont un poids très important sur leurs épaules. La personne malade reçoit des mots, des cadeaux, des attentions, beaucoup de choses. Et dans notre couple, à Raymond et moi, les gens n'envoyaient pas forcément de cadeaux et de mots, parce qu'ils envoyaient à la personne qui est malade. Donc c'est pas facile d'être aidant, c'est tout un chemin, sachant que l'aidant vit les diagnostics aussi avec l'ampleur de « et si je reste seule un jour ?» Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit un poème tout simplement sur qui s'appelle « Aux visiteurs », qui parle de l'importance de ce dont je parlais, que Raymond m'avait apporté, c'est la qualité d'attention. Et je lis juste 6 lignes. Les êtres qui comptent sont venus le souffle à hauteur de lit, les talons lâchés à la porte d'entrée. Ils ont baissé la garde pour accueillir le monde basculé de l'être malade, en attente d'une douceur d'oreille attentive. Et je crois que ça s'apprend, en fait, d'être aidant. Il se trouve que après ma maladie qui était assez grave, Raymonde a elle-même eu un cancer du sein qui heureusement a été pris très à temps. Là encore, je paraphrase l'ancienne présidente de la Ligue, il faut faire des examens régulièrement, on croit que c'est une contrainte. Moi-même, j'étais gravement malade parce que je n'étais pas allée chez la gynéco pendant 3 ans. Je travaillais beaucoup, je ne m'occupais pas de moi, je parle aux gens comme ça, mais... Et du coup, les aidants parfois sont aussi atteints de maladies et ils ont besoin d'être aidés eux-mêmes. Et c'est tout un chantier de prendre soin de soi quand on est aidant et d'aller aussi chercher des ressources.
Corinne, je pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute et je pense qu'on peut préciser que ce soit l'ouvrage ou la lecture spectacle, finalement ça s'adresse aux personnes qui vivent cette expérience, mais pas seulement, c'est d'ailleurs un peu les mots de votre oncologue.
Oui, c'est vrai. Voilà ce que dit Victor Simet, qui était mon oncologue à Angers, que je remercie beaucoup, qui a écrit la postface de ce livre, où il écrit « Ce recueil est destiné à tout un chacun ». Malade ou sain, qui souhaite vivre, apprendre à vivre ou à revivre. Cette poésie est thérapie, elle est cheminement. Cette poésie est stimulation.
Eh bien, je crois que l'on va se quitter sur ces quelques derniers mots. Merci beaucoup Corinne pour ce temps que tu nous as accordé et merci beaucoup pour ta confiance.
Merci à l'autre radio et à ces chemins originaux et de profondeur, Margot. Merci.
Et c'est le grand format dans la JT. La JT du local continue et c'est avec toi, Ronan.
Bonjour Margot, bonjour à tous. Et oui, la culture reste bien évidemment en mouvement et aujourd'hui, je vous propose un agenda culturel riche et varié de propositions pour tous les goûts. Et oui, l'agenda culturel revient aujourd'hui comme tous les vendredis, et pour commencer, je vous suggère une fabuleuse pièce de théâtre dramaturgique intitulée « Mort d'une montagne ». Celle-ci sera interprétée le mardi 11 mars à 20h30 au théâtre L'Entracte de Sablé-sur-Sarthe. Cette pièce aborde entre autres un thème d'actualité et qui nous impacte tous particulièrement, qui est le dérèglement climatique. Mais cette pièce de théâtre est aussi une incroyable aventure humaine, pleine de frissons, mais aussi une ode à la nature et à sa beauté. Alors enfilez votre tenue, votre casque et vos crampons de montagne et tentez l'ascension avec Roland Bouchon, directeur du théâtre L'Entracte.
Alors le Mort d'une montagne, c'est une création théâtrale qui nous a été présentée l'année dernière par la compagnie Le Champ des Pistes. C'est une jeune compagnie qui a eu la bonne idée, en tout cas, de faire une pièce de théâtre avec une jolie dramaturgie sur deux objets. Le premier objet, c'est une pièce de théâtre qui va aussi nous parler un peu du dérèglement climatique, puisque en tout cas le fond du décor de cette pièce, ça va être une montagne avec des glaciers, avec de jeunes grimpeurs qui vont se retrouver dans cet écosystème-là. Donc ça, c'est une des thématiques fortes de ce spectacle. Et la deuxième, c'est une très belle dramaturgie puisqu'on va rentrer dans la vie d'une famille avec une fratrie, deux frères et une sœur qui ont le souvenir de ce père qui était un très grand grimpeur des glaciers. Et fort de cette histoire familiale, on va vivre la fonte de ce glacier et de voir comment cela impacte tout l'écosystème et comment ça impacte aussi cette sœur et ses deux frères puisque l'un va faire comme son père va être guide de haute montagne, donc accompagne les touristes. La sœur tient un gîte dans ce glacier, donc est liée à toutes les logiques du tourisme. Et un autre jeune frère qui travaille plutôt en bas de la montagne avec tous les élus qui travaillent au développement de cette station avec tout le tourisme. Et donc on va parler bien sûr d'écosystèmes, de la nature, des émissions de gaz, mais surtout, et c'est ça que j'ai trouvé très chouette, on vit vraiment une aventure et on va suivre, entre autres, sans tout divulguer, la vie d'une touriste parisienne qui va venir et se faire le pari de pouvoir grimper ce glacier. Et donc, on va suivre cette aventure de cette Parisienne qui va, accompagnée d'un guide, faire le pari de sa vie. Et on va découvrir petit à petit pourquoi, et je n'en dis pas plus. Et en même temps, on va voir comment ce glacier qui fond, avec ces questions de tourisme, de valeur qu'ont les guides de haute montagne entre eux. Tout ça mélangé, ça fait une magnifique pièce de théâtre. Une jeune compagnie, ils sont jeunes, ils sont talentueux. C'est 2 heures et on rentre avec tous les bruits, tout un travail de sonore qui est très très bien fait, on va vraiment se projeter dans la montagne avec des orages, des cordées qui vont être mises en danger. Voilà, j'en dis pas plus, c'est une des très belles trouvailles 2023, en tout cas que je vous propose cette année.
Oyez oyez amis auditeurs, un festival que vous connaissez bien revient très prochainement avec de nouveaux artistes. Le Festival des Trois Éléphants revient du 24 mai au 2 juin 2025. Cette année, une nouvelle programmation inédite et pleine de surprises sera proposée, et notamment annoncée le jeudi 13 mars de 19h à 22h au 6x4 de Laval. N'hésitez plus, franchissez le pas et prenez prochainement votre billet pour découvrir de nouveaux artistes et partager un moment unique dans une ambiance de festival convivial. Et comme il faut bien conclure cet agenda culturel de la semaine prochaine, je vous propose un spectacle intitulé « Où ?» point d'interrogation, une histoire des années 2015 à 2020. Je vous laisse écouter Maël Grenier, le directeur du Carré à Château-Gontier, qui nous parle plus en détail de ce spectacle étonnant et original.
Le mardi 11 mars, nous allons accueillir la compagnie Vivre dans le Feu, une compagnie qu'on avait déjà accueillie sur une forme plus singulière, qui était une forme qui se passait en forêt. Voilà, une balade spectacle autour de l'appel de la forêt de Jack London. Donc c'était Louise Lévesque, le metteur en scène, qui avait proposé cette écriture. Et là, on les reçoit avec sa nouvelle création qui s'appelle Où ? Point d'interrogation, une histoire des années 2015 à 2020, où elle propose quelque chose d'assez étonnant, c'est de créer un spectacle autour de questions qui ont été posées à 3 femmes, qui sont les 3 interprètes de sa création. C'est une façon de donner la place aux femmes, aux jeunes femmes, sur leur quotidien et comment leur entourage, que ça peut être leur famille, leurs amis, les situe dans leur vie à travers un tas de questions qu'elles ont collectées pendant 5 ans. Et ces questions-là peuvent être tout simplement des questions très quotidiennes. Où as-tu, je ne sais pas, je ne me rappelle plus toutes les questions de la pièce, je ne sais pas, où as-tu rangé les clés. Mais en même temps, ça pose aussi des questions beaucoup plus politiques. Quelles sont les questions qu'on pose aux femmes dans le quotidien ? Quelles sont la réalité des semaines que certaines femmes, autant une jeune femme qui découvre l'amour, une femme qui est dans le cœur de ses études ou qui rentre dans la vie active, et une femme plus mûre, quelles sont toutes les questions qu'on pose aux femmes aujourd'hui ? Et du coup, ça évoque de façon très très étonnante la place qu'elles occupent dans notre société. Donc ça donne un spectacle complètement atypique aussi, puisque c'est un spectacle qui n'est fait que de questions. C'est-à-dire qu'elle a laissé libre cours à toutes ces collectes de ces trois interprètes et elle les a assemblées dans une forme tout à fait étonnante. C'est un peu un pari quand même, parce que convoquer des spectateurs avec uniquement des questions, c'est complètement étonnant. Et ça donne quelque chose d'assez fort, dans le sens qu'on situe tout à fait cette réalité de femmes avec cet enchaînement de questions. J'ai trouvé que cette proposition était fraîche, étonnante et digne en tout cas de venir découvrir cette tentative, cette performance.
Et du coup, cette représentation sera présentée aussi en audio description pour les personnes déficientes visuelles.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Corinne pour cette confiance et ce partage. Merci à toi, Ronan, pour ton enthousiasme. Tu as brillamment survécu à l'aventure radio avec nous. Bonne route à toi et bien sûr, tu reviens quand tu veux ici. Cette émission, c'est un peu comme une porte ouverte, j'ai envie de dire. Alors, on se dit au revoir, mais l'auditeur veut probablement savoir ce qui suit sur les ondes de l'autre radio.
La soirée débute en musique à 19h avec l'émission Dance Hall Social Club qui vous propose des sucreries musicales du passé.
On jette aussi un petit coup d'œil sur le week-end, Ronan, samedi à 10h par exemple. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Oui, on écoutera l'émission Histoire épique qui nous ramène loin en arrière dans l'histoire puisque l'on parle de l'Homo sapiens. Cette émission sera suivie à 13h de l'émission Rock Dreams qui fait un focus cette semaine sur Neil Young.
Et qu'en est-il du programme du dimanche ?
Retrouvez à 11h l'émission autour du sport, Sport épique, toujours avec l'équipe de Benoît, et ce dimanche, ne manquez pas l'interview de Willy Huchedé, qui est la voix du Stade Lavallois.
Et on termine en se plongeant dans la littérature jeunesse, Ronan.
Oui Margot, quoi de mieux que l'émission « On lit quoi nous ?» dimanche à 19h pour se plonger dans les méandres de la littérature jeunesse et pour évoquer l'actualité du livre et des éditeurs grâce à des interviews d'auteurs et d'illustrateurs, des chroniques, des lectures de textes et d'albums.
Merci Ronan.
Merci Margot et merci à l'autre radio pour ces deux semaines très agréables et enrichissantes et peut-être à bientôt.
C'est un plaisir, merci. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Christophe Le Breton qui vient à la Maison Bleue à Cran présenter son exposition de photographie, L'Absence. On parlera de son regard sur l'urbain et la manière dont ces images interrogent notre rapport aux espaces et au temps. D'ici là, laissez la semaine s'éclipser sans courir après ce qui peut attendre. Le week-end approche et avec lui, un souffle plus léger. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.